7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Émission enregistrée à Dakar pour tirer le bilan de la conférence de financement de l'éducation. À l'initiative des présidents Emmanuel Macron et Macky Sall, le Partenariat mondial pour l'éducation a réussi peut-être la plus grande collecte de fonds jamais organisée pour l'éducation des enfants. On revient d'années et d'années de désengagement. L'aide internationale, du coup, est-elle finalement redevenue une priorité politique? Pour quelles actions? Et surtout, est-ce le début d'un changement durable et indispensable pour scolariser tous les enfants en âge d'école primaire, pour répondre aussi à la demande des familles aux portes des collèges du secondaire maintenant, et puis pour assurer l'équité filles-garçons avec une éducation de qualité. Ça fait beaucoup, beaucoup d'objectifs. Nous allons en discuter avec nos invités. Michaël Jean, secrétaire général de la francophonie, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Heureuse d'être là.
Jean-Martin Koulibaly, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez ministre de l'éducation nationale du Burkina Faso jusqu'à jeudi dernier.
Voilà.
Remaniement gouvernemental oblige. Vous avez une longue carrière derrière vous, notamment dans l'enseignement technique, qui est un sujet crucial et pourtant longtemps oublié des bailleurs de fonds. On en parlera. Jean-Marc Bernard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur technique adjoint au Partenariat mondial pour l'éducation. Vous avez longtemps sillonné les écoles africaines en tant qu'économiste de l'éducation. Vous connaissez très très bien le terrain. Cher Mbo, bonjour.
Bonjour.
Coordonnateur de la COSIDEP au Sénégal. C'est la coalition de syndicats enseignants, ONG, associations de parents, chercheurs, la société civile comme on dit. Et puis également avec nous Sobel Ngom, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes fondateur de l'ONG sénégalaise Social Change Factory. On est désolé pour les quelques mots d'anglais. Ce sont des compétitions citoyennes qui s'appellent Voix des Jeunes. Principalement organisée par cette ONG dans plusieurs pays de la sous-région, d'ailleurs des pays francophones, il faut le préciser. Vous avez 27 ans, vous avez commencé votre carrière d'activiste dans la société civile à la Maison Blanche, très simplement détecté comme jeune talent par Barack Obama à l'époque. Et bien sûr, vous nous direz, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu les jeunes, évidemment, durant ces deux jours, ils n'étaient pas prioritaires dans les discussions. Vous nous direz aussi ce que vous aimeriez faire passer comme idée du côté des jeunes et comment les jeunes pourraient être davantage consultés aussi dans la façon de concevoir les politiques d'éducation. Michaël Jean, on a deux pays francophones à l'origine de cette campagne mondiale de financement. Quel bilan vous tirez de ces deux jours, de cet élan financier annoncé?
Je dirais que d'une part, on sent une vraie volonté, on sent un nouvel esprit de responsabilité. Le fait de mettre de l'avant l'éducation, quand on pense à tous les défis auxquels nous sommes confrontés dans le monde, qu'on parle de défis migratoires, climatiques, défis de sécurité, d'égalité entre les femmes et les hommes, économique, le chômage des jeunes, lorsqu'il est chronique, qui est un véritable scandale, défis de démocratie. Pour tout cela, il y a parmi les armes de construction massive, il y a l'éducation. L'éducation et ça, dans tout ce qu'on aura entendu aujourd'hui, on a senti qu'il y avait une sincérité, assurément.
Un engagement politique.
Un engagement politique. J'ai aimé entendre ces pays en développement. Et puisque nous sommes ici à Dakar, en Afrique subsaharienne, au Sénégal, il faut dire que déjà, pour vaincre toutes les fausses perceptions, dans les pays de la région, l'investissement dans l'éducation dépasse les 17-20% de leurs dépenses publiques. Mais cela dit, avec la pression démographique, avec les défis aussi de sécurité, tout ce que vous investissez dans la défense, vous ne l'investissez pas ailleurs. Et est-ce qu'il fallait redresser ? D'où ce grand rendez-vous, c'est aussi cette contribution qui était, je dirais, mais vraiment
anormalement
faible au niveau de l'aide internationale dédiée à l'éducation. Les chiffres sont saisissants. Moins de 6 euros par enfant pour cette région d'Afrique subsaharienne, moins de 6 dollars. Donc imaginez, et cela ne représentait que 2%, je dirais, des coûts de scolarité pour les enfants. Et le reste était laissé aux familles et aux États. Donc il fallait absolument redresser cela. Et je sens qu'aujourd'hui, c'est une étape déterminante.
Jean-Marc Bernard, comparativement à la dernière levée de fonds pour la santé, Fonds mondial pour la lutte contre le sida, le paludisme, la tuberculose, l'éducation est encore loin derrière. Oui, si largement 4 fois moins en milliards de dollars.
Oui, en général, les fonds mondiaux santé lèvent environ 10 milliards de dollars quand ils font une reconstitution de leurs fonds.
On était presque à 13 à la dernière levée, me semble-t-il.
Mm-hmm. Toujours au-dessus, oui, toujours au-dessus de 10 milliards. Donc effectivement, il y a une échelle qui est assez différente.
Pourquoi ?
Pour plusieurs raisons. La première, c'est que la santé, évidemment, touche directement les populations. Les résultats sont très vite visibles et aussi sont souvent très vite obtenus. Les vaccins et un certain nombre de traitements médicaux ont des résultats immédiats, directement visibles pour les populations et aussi pour les personnes qui financent. Donc tout ça va bien ensemble. Il y a aussi une forte mobilisation internationale et aussi dans le secteur privé pour soutenir ces investissements. Donc il y a un ensemble de facteurs qui font que la santé a traditionnellement beaucoup plus attiré les financements internationaux que l'éducation.
Et puis le sida aussi, il faut le dire, hein, plus cyniquement, a été longtemps une peur universelle. Est-ce que, bon, là, l'éducation est une des priorités de l'Alliance pour le Sahel qui a été lancée en juillet dernier. Est-ce que le contexte sécuritaire, la menace terroriste dont vous parliez, Michael Jean, le phénomène migratoire, est-ce que ces composantes-là ont pesé largement maintenant en faveur d'une urgence pour l'éducation des jeunes ?
C'est difficile à dire. Je pense que dans les discours qu'on a entendus cet après-midi avec les chefs d'État africains, notamment, c'était très présent dans leurs discours. Donc on sent cette
peur. Peut parler d'une peur, d'une angoisse, d'une inquiétude partagée.
Je pense que c'est un mélange. Il y a une peur, mais il y a aussi une vision. C'est que l'éducation, c'est le moyen de dépasser ses peurs plutôt que de se replier dans du repli sécuritaire ou identitaire, etc. C'est notre premier chantier, notre première solution pour faire face à tous ces problèmes.
On a su communiquer beaucoup sur les problèmes de santé. Il est plus facile de montrer un corps malade que de montrer, je veux dire, une personne vivante, mais face à un sentiment d'impasse, face à un sentiment, je dirais, de désenchantement, parce que n'ayant pas cette possibilité de s'épanouir pleinement...
Oui, l'ignorance ne s'écrit pas sur les fronts.
Voilà, finalement. L'ignorance ne s'écrit pas sur les fronts. Cela dit, il est vrai que le sursaut en ce moment, c'est de voir à quel point des organisations criminelles sont en train, justement, de faire leur nid partout, partout et là où il y a ignorance, là où il y a justement sentiment de désenchantement. Donc cette urgence, elle est là, elle est réelle. Et en même temps, je dirais que l'on est conscient aussi du pas en avant gigantesque réalisé par certains pays qui ont su investir massivement dans l'éducation. C'est très intéressant, par exemple, d'entendre le président de la Banque mondiale parler de son propre pays, c'est-à-dire la Corée du Sud, dans les années 50, était un pays en développement avec un PIB inférieur à celui du Sénégal aujourd'hui. Et de voir comment un investissement considérable dans l'éducation a tout changé. Aujourd'hui, leader dans le secteur de la robotique, numérique, aménagement du territoire. Et puisqu'on parle de numérique, dans très peu de temps, 90% des emplois seront des emplois de la filière numérique. Donc, cette capacité de maîtriser les nouvelles technologies est capitale. Et il faut amener aussi les filles et les garçons sur ce domaine de connaissances. L'avenir est là.
Vous donniez l'exemple de la Corée, qui est devenue un des leaders dans les comparaisons internationales sur le niveau d'instruction des élèves, des adolescents. Mais c'est aussi le pays où les familles ont le plus investi personnellement pour éduquer leurs propres enfants. C'est aussi peut-être pour ça que la Banque mondiale aime bien en parler, qui défend beaucoup le secteur privé. Est-ce qu'en Afrique, les familles africaines, notamment avec la démographie, mais aussi à cause de la pauvreté, pourront autant investir pour éduquer leurs enfants? Est-ce qu'on va leur demander d'ailleurs un tel effort?
Étant fille d'Haïti...
C'est le pays au monde où l'éducation est la plus privatisée.
Privatisée, et ça, de voir comment on utilise aussi l'éducation, ou parfois une vitrine, un semblant d'éducation, parce que la plupart de ces écoles privées, souvent, sont ce qu'on appelle en Haïti des écoles borlettes, donc qu'une façade, quoi. Mais par contre, on va jouer sur cette volonté qu'ont les familles, même les plus pauvres, d'investir au moins 40% de leurs revenus pour qu'au moins un de leurs enfants aille à l'école. Donc, il y a ce désir. Je pense que les gens, les citoyens eux-mêmes, savent à quel point l'éducation est la clé pour aspirer à autre chose.
Alors revenons au contexte africain. Jean-Martin Koulibaly, ancien ministre de l'éducation au Burkina Faso jusqu'à il y a quelques jours. Comment vous avez perçu ces deux jours de mobilisation politique et financière pour l'éducation massivement sur votre continent?
Je crois que c'était un grand phare allumé sur la cause de l'éducation et il était temps que quelque chose comme ça intervienne pour que la communauté internationale se rende compte que les turbulences que nous vivons aujourd'hui ne pourront pas durablement être résorbées, que si nous nous occupons de l'éducation partout où elle doit être faite, et notamment dans nos pays où, malgré les efforts très considérables qui ont été faits, au Burkina par exemple, en 2018, nous consacrons, tout niveau confondu, près de 30% du budget de l'État au secteur de l'éducation. C'est énorme. Mais malgré
c'est
tout
plus
cela,
que le Sénégal encore.
C'est plus
hein.
que le Sénégal.
Et c'est 10% de plus que ce qui est recommandé en général
exactement.
Par le PME, d'ailleurs, par le Partenariat mondial pour l'éducation, qui exactement. Recommande 20% minimum.
Voilà. Mais malgré tout cela, nous avons encore des classes sous paillote, nous avons encore des classes à 120 élèves, nous avons encore des classes où nous faisons des rotations d'enseignants parce que nous n'avons pas suffisamment d'enseignants. Donc, c'est la transition qui nous pose beaucoup de problèmes. Donc, aujourd'hui, la plupart de nos pays, le problème qu'ils ont, c'est comment organiser l'accueil aux autres niveaux des sous-systèmes.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Cher Mbo, coordonnateur de la COSIDEP, donc vous représentez la société civile. Comment vous avez vécu ces deux journées? Est-ce que vous êtes déçu des engagements financiers qui ont été avancés?
Mais peut-être deux points. Le premier, c'est que nous avons senti qu'il y a évidemment une forte solidarité au plan mondial, parce que nous avons fini de comprendre que l'éducation, c'est surtout un enjeu mondial. Et donc ça, je crois que c'est un aspect qui est essentiel. L'autre aspect pour nous qui est fondamental, c'est la complémentarité des parties prenantes. Et c'est ça qui fait la pertinence et la particularité du Partenariat mondial pour l'éducation. Nous, organisation de la société civile, pendant au moins 2 mois, on était avec nos gouvernements pour construire des documents de plaidoyer, des argumentaires, pour les pousser à prendre des engagements forts. Donc ces résultats obtenus, nous sentons notre main dans ces résultats obtenus. Et donc c'est comme ça qu'il faudrait qu'on comprenne qu'aucun acteur ne peut y arriver seul. Ça, pour nous, c'est un aspect qui est essentiel. L'autre aspect, c'est que nous avons, nous, en tant qu'organisation de la société civile, rappelé que si nous voulons avoir des systèmes éducatifs durables, un financement soutenable, si nous voulons préserver la souveraineté du secteur de l'éducation, il faut miser sur le financement domestique. Et ça, nous l'avons cessé durant les 2 mois de le rappeler à nos gouvernements. Je disais que, par exemple, vous venez au Sénégal, pendant très longtemps, on se dit, mais écoute, est-ce qu'on n'a pas une école française au Sénégal? Nous ne voulons pas de ça. Et maintenant, le financement international devrait pouvoir venir en appui, parce qu'il y a une responsabilité collective.
Vous avez été étonné de l'annonce de votre président sénégalais, Macky Sall, de sa contribution sénégalaise au Partenariat mondial pour l'éducation, qu'un pays pauvre contribue lui aussi et mette de l'argent dans la collecte, plusieurs millions?
Non, je n'ai pas du tout été étonné, pas du tout, parce que simplement, le statut du Sénégal par rapport à cette campagne impose politiquement, d'ailleurs, qu'il y ait une action de ce genre. Donc ça, on peut le comprendre sous cet angle-là. Mais je crois que le Sénégal est aussi un cas d'école assez intéressant. Nous faisons partie des champions en termes de ressources injectées dans le système. Mais nous faisons partie des pays qui sont dans le cadran les plus inefficients. Donc il y a un problème aussi. Est-ce que nous devons continuer simplement à raisonner en termes de volume de ressources à injecter? Est-ce qu'il ne faut pas commencer à interroger l'efficience de notre système?
25% du budget de l'État consacré à l'éducation et puis évidemment beaucoup d'échecs aux différents examens.
Tous les examens, c'est 30 à 40% de réussite. Donc tu as sur 10 enfants, les 6 ou 7 qui échouent. C'est un problème. Vous avez encore 1 500 000 enfants qui sont hors école, ils ne sont dans aucune offre éducative. Il faut évidemment qu'on puisse interroger cette question liée à l'orientation.
Sobel Ngom, de l'ONG Social Change Factory, vous organisez régulièrement des séances de coaching avec des jeunes qui préparent le baccalauréat. Vous avez cette série de compétitions télévisées pour pousser les jeunes à une action citoyenne dans plusieurs pays de la francophonie. Comment vous avez vécu ces 2 jours consacrés à un engagement politique et financier sur l'éducation?
Alors, ces 2 jours étaient pour moi très très intéressants et je pense en effet, je rejoins les personnes sur cette table qui, en disant qu'on sent une conscientisation réelle. Les intérêts sont différents, mais on sent une prise de conscience qui est collective des grands acteurs et que la question de l'éducation aujourd'hui n'est plus seulement une ambition pour les personnes éduquées, mais c'est une question de sécurité mondiale, c'est une question de santé mondiale, c'est une réponse. Quelque part, je pense que l'éducation a longtemps été expliquée comme étant l'élément qui pourrait assurer une stabilité au monde parce que les gens seront mieux informés en termes de connaissances. Et aujourd'hui, je pense que c'est extrêmement important de voir que c'est la seule réponse et c'est très bien de voir d'aussi gros montants d'argent investis dedans. À mon niveau, je ne vois pas très clairement comment ils vont être investis. Mais ce qui est très clair pour moi, par contre, c'est que, comme Chermo vient de le dire, je pense qu'il y a toujours eu de l'argent qui a été mis et il y en aura probablement toujours à des niveaux différents. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'on puisse avoir l'audace de mettre en place des réformes qui sont dures, mais qui vont assurer à notre éducation nationale une survie.
En même temps, ce que je trouve intéressant au Sénégal, vous parliez de la contribution sénégalaise à hauteur de 2 millions au partenariat mondial pour l'éducation, mais il faut savoir aussi comment le Sénégal cherche à abriter aussi ce qui permettra de faire ce saut qualitatif dont vous parlez, parce que c'est de ça dont il s'agit. Par exemple, en abritant l'Institut de la Francophonie pour l'éducation et la formation, et en y investissant aussi, je dirais, des moyens, ce que le Sénégal fait, c'est abriter cet outil extraordinaire qui va permettre justement d'accompagner les pays dans la modernisation, le renforcement de leurs programmes et de leurs politiques en matière d'éducation et de formation.
Bon, là, à l'heure où nous enregistrons cette émission, on sort de cette conférence de pledge, comme on dit, où les États sont venus expliquer quelle allait être leur contribution financière. Jean-Marc Bernard, vous êtes membre de la direction du Partenariat mondial de l'éducation, vous êtes très prudent, vous avez dit, oh, tout ça, il va falloir refaire des calculs, consolider les chiffres, parce qu'on a senti qu'il y avait un grand élan, il y avait Rihanna sur scène, Emmanuel Macron, et donc on a vu défiler les millions. Grosso modo, est-ce que vous pouvez nous redonner quelques tendances avant qu'on en sache un petit peu plus, dans quelques jours, bien évidemment?
La tendance d'ensemble, on parle de 2,3 milliards de dollars d'engagement financier aujourd'hui.
Pour combien de temps?
Pour 3 ans, ce qui se compare avec...
Bon, pour l'année 2018, l'année 2019 et l'année 2020.
Ce qui se compare à 1,3 milliard de dollars pour les 3 années précédentes. C'est une augmentation de plus de 70%. Donc effectivement, on est sur des chiffres plus petits que ce qu'on observe dans la santé, mais si on regarde...
Plus
tendance...
petit aussi que ce que vous attendiez aussi.
Oui, hein,
vous annonciez plus de 3 milliards de dollars.
Oui, mais l'objectif ne s'arrête pas aujourd'hui. On n'a pas abandonné l'objectif. Pour nous, la conférence et le momentum qu'on a eu à cette conférence, c'est le chemin vers les 3,1 milliards. Et on espère plus que ça. Il y a des discussions qui sont en cours avec plusieurs pays qui n'ont pas pu prendre des engagements et dont on espère dans les prochains mois vont venir avec des engagements.
Le grand changement politique, c'est l'attitude de la France, il faut le dire. Emmanuel Macron a annoncé 200 millions d'euros, donc parallèlement 100 millions pour l'Agence française de développement. On revient de très loin parce que la France, dans la partie éducation de son aide au développement jusqu'à maintenant, consacrait l'essentiel de l'argent à l'accueil des étudiants étrangers, autant dire rien à voir avec ce que fait le partenariat mondial de l'éducation.
C'est vrai que c'est un changement radical de politique d'aide au développement du côté du gouvernement français avec un retour massif dans l'éducation. Donc c'est effectivement une bonne nouvelle quand on est au partenaire mondial pour l'éducation de voir qu'un partenaire qui a été discret ces dernières années revient en force avec une priorité numéro 1 pour l'éducation. C'est quand même extrêmement appréciable, particulièrement quand ce partenaire est un membre du G7, donc un membre très influent qui utilise aussi son influence pour amener d'autres partenaires autour de la table, partenaires financiers.
Il y a là une possibilité de créer une dynamique totalement différente, parce qu'il y avait autrefois cette tendance à se dire, bon voilà, nous allons jouer l'axe bilatéral, et on se retrouvait aussi avec une espèce d'éparpillement qui pouvait aussi entraîner gaspillage des ressources.
Mais quand la France conserve 100 millions d'euros pour l'Agence française de développement, ça s'appelle de l'aide bilatérale et ça s'appelle aussi l'idée de garder la main sur l'argent que l'on donne au pays, c'est-à-dire garder la main sur les programmes notamment.
Oui, mais ça montre surtout, comme le disait Madame Jean, ça montre surtout à la complémentarité des deux types d'investissements. Mmh. Si vous regardez les gros investisseurs au niveau du Partenariat mondial pour l'éducation, ils ont aussi une importante part sur le bilatéral. C'est le cas du Royaume-Uni, un des plus gros investisseurs bilatéraux dans le monde.
On va poursuivre cette discussion, on va reparler bien sûr des engagements financiers, on va essayer de comprendre aussi comment éviter le recyclage des promesses, comment éviter le fait qu'on a des pays qui annoncent des sommes et puis en fait ils en doivent déjà pas mal depuis plusieurs années. Donc c'est très compliqué aussi de savoir quelle est la réalité par rapport à cet élan très, très politique. Michael Jean, vous devez nous quitter. Merci beaucoup d'avoir participé à la première partie de cette émission. Quant à nous, on se retrouve juste après le flash et on va s'interroger à quoi vont servir concrètement les financements internationaux annoncés. Jean-Marc Bernard lève les yeux au ciel en disant ça ne va pas être très simple. Quelles vont être aussi les conditions octroyées aux États en développement par les partenaires, par le Partenariat mondial pour l'éducation? Va-t-on vers une campagne de plus long terme avec un prochain rendez-vous en 2020. On en discute. On se retrouve dans 3 minutes, juste après le flash. Restez avec nous, les voisins et les voisines.
Yara. 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins. L'émission est enregistrée à Dakar pour tirer donc le bilan de la conférence de financement de l'éducation. Vous en avez beaucoup entendu parler tout le week-end à l'initiative des présidents français et sénégalais et le partenariat mondial pour l'éducation. Finalement, alors on attendait plus de 3 milliards de dollars annoncés pour la période de 2018-2020. Finalement, ce sera 2,3 milliards, mais vous nous le disiez, Jean-Marc Bernard, c'est une augmentation déjà impressionnante par rapport aux années précédentes, puisque grosso modo, depuis la crise financière de 2007-2008, on assistait à un désengagement qui semblait inexorable de la part des États donateurs pour les pays en développement.
Oui, la part de l'éducation dans l'aide au développement a décru durant les 6 dernières années. Donc l'objectif avoué, qui est au-delà du partenariat mondial, c'est de changer cette tendance pour que la part de l'éducation réaugmente dans l'aide internationale. Pour nous particulièrement, au jour d'aujourd'hui, c'est plus de 70% d'augmentation. Mais la campagne ne s'arrête pas aujourd'hui et l'objectif reste. On a des discussions avec d'autres bailleurs, donc on est toujours sur cet objectif-là, voire un petit peu plus à l'horizon 2020, où il y aura la prochaine conférence de reconstitution des fonds.
Alors, parmi les bons élèves, on a toujours les mêmes. La Norvège, qui a même augmenté sa contribution de 40% par rapport à la dernière reconstitution de fonds pour l'éducation.
Oui, alors c'est très satisfaisant de voir que des partenaires historiques augmentent leur contribution, ce qui montre la confiance qu'ils ont dans l'institution. On a aussi de nouveaux partenaires, les Émirats Arabes Unis qui se sont engagés à 100 millions de dollars. C'est tout à fait intéressant. Donc entre des partenaires historiques qui augmentent, le Canada qui a doublé sa contribution et un certain nombre d'autres partenaires et de nouveaux partenaires, on est dans une situation qui est effectivement très différente de là où on était il y a 3 ans. Donc le momentum politique, cette prise de conscience dont on parlait tout à l'heure, on la ressent aussi dans les chiffres, même s'ils ne sont pas aussi impressionnants qu'on pourrait l'espérer, ils sont quand même très intéressants. Mais je voudrais quand même signaler que plus de 50 pays ont pris des engagements sur leur financement domestique à cette conférence. Et ça, c'est extrêmement important.
Les pays en développement qui ont besoin d'améliorer l'accès à l'éducation.
Absolument. On a plus de 50 pays qui ont pris des engagements d'augmenter leur financement pour l'éducation. On est à plus de 110 milliards de dollars pour les 3 prochaines années, qui se compare à 80 millions de dollars pour les 3 années précédentes. Donc une augmentation très sensible, hein, près de 40% des budgets de l'éducation. Pour ceux qui connaissent un petit peu les chiffres, vous savez qu'en Afrique subsaharienne, les pays en moyenne consacrent 17% de leur budget à l'éducation. Juste par comparaison, l'Europe et l'Amérique du Nord, c'est 12%. Donc en termes d'efforts, les pays
budgétaires,
en termes d'efforts budgétaires, les pays sont déjà très engagés. Il y a cette idée qu'on ne met pas souvent assez.
C'est-à-dire qu'un pays comme le Sénégal, 25% de son budget consacré à l'éducation, c'est 2 fois plus que la France en termes d'efforts budgétaires.
En termes d'efforts budgétaires. Et ça, il faut bien avoir conscience parce que c'est des choix politiques très difficiles dans des contextes où la santé pose problème, les infrastructures sont à développer. Il faut bien prendre conscience de l'effort que représentent ces montants budgétaires dans les contextes des pays en développement. Donc je pense que le message très fort avec plus de 50 pays qui ont pris un engagement. Je n'ai pas connaissance d'un autre cas de figure d'une conférence où des pays, ministres de l'Éducation, en concertation avec leur ministre des Finances, sont venus prendre un engagement financier.
Charmbo, vous êtes coordonnateur de la COSIDEP, hein, la société civile au Sénégal.
Je pense que ce qui est un aspect positif pour cette conférence, relativement à cela, c'est que les porteurs de ces engagements ont évolué. C'est cela peut-être qui peut nous faire... Non, parce que cette fois-ci, nous avons eu des chefs d'État, des chefs de gouvernement.
Et des ministres.
Et des ministres des Finances qui sont
impliqués. Vous voulez dire qu'avant, c'était des directeurs de cabinet, c'est ça? Des directeurs techniques qui venaient...
On pouvait même avoir un ministre de l'Éducation. Mais on avait dit qu'il faudrait que l'engagement soit porté et assuré au plus haut niveau. Donc comment faire pour qu'on sache que pour des engagements financiers, il ne faut pas seulement avoir comme cible l'éducation,
le ministre de l'Éducation. Donc on peut imaginer que les promesses seront davantage tenues?
En tout cas, les promesses sont un engagement au partenariat. Et dans le partenariat, on a la société civile. Donc il y a un outil qui est là, d'engagement politique, avec les partenaires qui sont sur le terrain, qui peuvent dialoguer autour d'un engagement qui a été pris devant la communauté internationale. Le partenariat mondial, c'est la société civile, c'est le secteur privé. Donc c'est quelque chose qui va faire vivre le partenariat et le dialogue sur les questions de financement domestique, comme Cher vient de l'indiquer.
Jean-Martin Koulibaly, vous étiez ministre de l'Éducation nationale du Burkina Faso jusqu'à il y a quelques jours.
C'est ça. Je crois que le fait que parfois les États n'ont pas tenu leurs engagements, c'est quand même dû également à l'évolution de certaines situations. Quand je prends le cas du Burkina Faso, depuis 2-3 ans, nous avons cette question du terrorisme qui est intervenue, qui a fait que automatiquement, les gouvernements responsables, vous êtes obligés de faire quelque chose. Pour vous donner des exemples, l'année dernière, nous avions déjà de la ressource pour faire des investissements, créer des écoles, etc. Mais quand nous avions passé les marchés pour aller construire dans le Nord, il fallait, pour que le chantier puisse se réaliser, et mettre sur le chantier une équipe de sécurité. Ce n'est plus le même coût. Il fallait, pour que les enseignants soient rassurés et restent dans les classes pour pouvoir défendre cette cause de l'éducation, organiser des patrouilles qui passent régulièrement dans les écoles pour donner cette confiance aux enseignants et aux élèves de se maintenir. Ce n'est plus le même contexte. Et vous ne pouvez pas, en faisant cela, tenir les mêmes engagements que vous aviez pris lorsque cette situation n'existait pas. Donc parfois, les pays ont eu des circonstances atténuantes.
Moi, je les appelle mes cousins du gouvernement. Ils sont toujours forts pour justifier le fait de ne pas respecter tout votre engagement.
En tant que société civile, comment vous allez surveiller les investissements?
On peut avoir des situations d'urgence. Et c'est là où on a besoin justement du Fonds mondial pour faire face à ces situations d'urgence. Ça, on peut le comprendre. Mais de manière générale, tout le monde n'est pas en situation d'urgence. Donc, il y a un problème de volonté politique qui est posé dans ce sens-là. Deuxième aspect, quand nous parlons de financement de l'éducation, comme j'ai dit, ça devrait nous permettre au moins de régler la crise de confiance sous trois angles. Aujourd'hui, nous savons que les sociétés, nos communautés, nous qui sommes sur le terrain, ne font plus confiance à l'offre d'éducation qui leur est proposée.
Tout en étant très demandeuse. C'est assez paradoxal, d'ailleurs.
Est-ce qu'on les écoute suffisamment pour...
Il y a une forte demande,
quand même. Est-ce qu'on les écoute suffisamment pour ne plus entrer par l'offre et entrer plutôt par leurs demandes, leurs besoins? Est-ce que nos gouvernements comprennent que les citoyens, ce sont eux les commanditaires, ce sont eux les bénéficiaires? Est-ce qu'il y a un dispositif qui les écoute mieux pour leur donner l'offre dont ils ont besoin? Ça, c'est le problème de confiance entre l'école et le public. Vous voyez?
Vous pensez à quoi au Sénégal? Davantage, par exemple, d'enseignement plus proche de l'enseignement des écoles coraniques?
Non, ce n'est pas moi qui pense, justement. Quand je me mettrai à penser, justement, c'est de travailler, d'avoir des stratégies où il y a un dialogue pluriel au plus bas niveau, où on peut remonter des informations. Voilà notre apport en tant qu'organisation de la société civile. Nous avons réalisé au Sénégal, la COSINEP, un livre blanc sur l'éducation et la formation, où on a été dans 100 villages, 100 quartiers, pour organiser des forats, remonter des informations, prendre les perceptions. Et ces perceptions sont données aux experts, parce qu'on ne peut pas seulement se fier aux perceptions, pour les traduire. Je pense que cette relation qui doit exister entre le gouvernement, les décideurs, qui doit se dire que les ressources, c'est nous, c'est les populations qui les donnent. Donc, la question de la redevabilité, pour nous, c'est une question qui est importante. Donc, la crise de confiance par rapport à la société, par rapport à l'école, mais crise de confiance aussi qui existe entre même les acteurs et leurs institutions. On ne fait pas confiance au gouvernement dans plusieurs pays.
Vous voulez dire que ceux qui financent l'éducation, finalement, via la fiscalité, les familles, ne sont pas suffisamment consultés?
Ils ne sont pas suffisamment consultés. Donc ça,
puisque l'essentiel de votre budget éducation, ce n'est pas l'aide internationale. Plus de 90% du budget éducation au Sénégal.
Au Sénégal, c'est la
fiscalité, finalement.
C'est national. Oui. C'est pourquoi nous disons que, justement, les communautés doivent avoir plus de place. Mais je voudrais terminer sur cette confiance pour parler même de la confiance de l'enfant par rapport à lui-même. Regardez ce qui se passe au Sénégal. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi socialement parce qu'ils ont été exclus de l'école. Parce que l'école a dit, vous n'êtes pas bon, l'école les a exclus, ils ont réussi. Du point de vue culturel, aussi sur le plan économique. Donc voir qu'est-ce qu'on appelle par la réussite. Au-delà de la réussite académique, il y a cette réussite sociale qui doit être aussi une préoccupation. Donc nous pensons évidemment qu'il faudrait changer complètement de paradigme. Si nous ne le faisons pas, nous allons continuer à investir, mais sans avoir effectivement un impact par rapport aux objectifs qui sont posés. Et nous, la question de l'impact et des effets, pour nous, c'est une question qui est essentielle et fondamentale.
Sobel Ngom, sur cette forme de défiance, finalement, par rapport à l'offre éducative et en même temps cette forte attente des familles pour avoir des enfants éduqués?
Absolument. Et puis, pour compléter un petit peu ce que Cherbo veut dire, je vais donner un exemple concret au Sénégal. Comme vous le savez, on a travaillé sur un programme qui accompagne les jeunes pour préparer leur bac. Vu les résultats catastrophiques, on a fait une étude cette année.
70% d'échecs au bac, hein,
70% d'échecs au bac. On a fait une étude et cette étude a fait ressortir plusieurs chiffres très intéressants, mais un particulièrement ici, sur la question de la confiance vis-à-vis des attentes. 8 enseignants sur 10 et 7 élèves sur 10 disent qu'ils font les cours en langue locale parce qu'ils ne comprennent pas le français. Vice-versa, les profs sont obligés d'expliquer aux élèves le contenu académique dans une langue que les élèves peuvent s'approprier et qu'ils peuvent comprendre parce qu'ils n'arrivent pas à intégrer ces mécanismes en français.
En réalité, tout le monde le sait, mais personne ne le dit.
Exactement, et c'est ça, ce que Cherbo veut dire, je pense, c'est vraiment ça. Il y a une ONG qui s'appelle Ared qui travaille au Sénégal sur des questions de langue nationale. Ils ont fait tous les pilotes possibles, ils ont tout testé. Ils ont montré les résultats, comment des résultats peuvent être meilleurs avec un enseignement de base en langue international. C'est pas une défiance vis-à-vis du français. C'est que quelqu'un qui est né dans une famille où on n'a jamais parlé français, qui se retrouve à 2 ans dans un bain où on parle français comme si c'était une langue maternelle, ça peut pas marcher. Il faut que cette langue soit enseignée.
Il y a de plus en plus de langues locales dans les écoles élémentaires, honnêtement.
Des pilotes sont faits, mais c'est pas encore une règle.
Au Burkina Faso.
La question du bilinguisme, c'est une vraie question de fond. Autant tout le monde est convaincu de cet apport indispensable et même stratégique d'utiliser la langue de l'apprenant pour les premiers pas minimalement, autant c'est un défi réellement politique dans certains pays. Moi, je prends le cas du Burkina. Nous en avons 66 de langues. Comment vous organisez effectivement la valorisation de ces langues-là dans une réelle politique linguistique qui serait prise en charge donc, par le système éducatif? Et quand vous approchez les linguistes, ils vous font une construction théorique très belle, mais qui est impraticable sur le terrain. Moi, j'ai été ministre de l'Éducation. Si vous allez prendre par village, ne serait-ce que les langues qui sont pratiquées là-bas, vous avez une problématique de formation des enseignants, parce que l'enseignant doit parler cette langue, sinon vous vous retrouvez dans le même obstacle. Vous avez des problématiques de manuel, parce que s'il n'y a pas d'environnement lettré dans cette langue, même si on l'a adéquatement apprise, on la repère automatiquement. Etc.
Monsieur le ministre, l'Inde a plus de langues que vous.
On voit bien. Alors, on va pas faire toute l'émission sur les langues locales, mais on voit bien quand même que dès lors que des financements arrivent, que des engagements financiers sont pris aussi bien par les États des pays en développement que par l'aide internationale, on voit bien que la mise en œuvre des dépenses et des choix politiques, où mettre de l'argent, pourquoi, pour quel résultat, ça va être beaucoup plus compliqué. Jean-Marc Bernard, est-ce qu'il y a un système au Partenariat mondial de l'éducation de conditionnalité de l'aide ? Pour ne pas dire une forme de pression sur les États pour faire tel ou tel choix plutôt que d'autres.
On n'appellerait pas ça conditionnalité. Le partenariat, les décisions sont prises au niveau du conseil d'administration avec les pays. Donc c'est une approche qui est très différente. C'est comment les pays se sont mis d'accord sur quels sont les éléments, les prérequis pour avoir accès au financement. Pays bailleurs, société civile. Sharon Bowles était un membre du partenariat, il connaît bien les fonctions. Donc ça s'interprète très différemment d'un point de vue pays. Et les critères qu'on utilise, c'est d'abord d'avoir une politique nationale. Le partenariat mondial soutient des politiques nationales. Soutient les pays à développer leur politique nationale de façon inclusive, consultation avec la société civile. Donc quand j'écoutais le dialogue qui s'instaurait, c'est exactement ça le partenariat. Qu'on soit un projet ou qu'on soit en appui budgétaire, on doit absolument utiliser l'argent du partenariat mondial pour financer la politique nationale.
Est-ce que ça veut dire que la question aujourd'hui de la souveraineté des États, dès lors que de l'aide internationale se profile de manière plus importante, ça va devenir une question compliquée ?
Oui, moi je pense que ça c'est une question essentielle. Il faut travailler à avoir des systèmes véritablement nationaux.
Souverains,
qui tiennent compte de nos valeurs. Qui construisent, parce que les valeurs, les références en France, ça peut être différent de chez nous. Nous, vous pouvez faire une scolarité, vous pouvez faire 25 ans de scolarité sans jamais connaître une figure telle que Cheikh Omar Fatou. Alors que moi, je peux vous parler pendant une heure de temps de Pascal ou de Napoléon. Ça pose problème, c'est des contradictions. Donc, c'est de cela dont nous avons besoin. Mais ça, pour le réussir justement, il faudrait qu'on puisse être nous-mêmes les principaux bailleurs. Moi, je serais prêt à limiter, moi, j'aurais été un État, je serais prêt à limiter. L'aide internationale. Je les limite.
Ah bah c'est pas du tout ce qui vient d'être fait, là, au contraire. Hein. On est quand même dans un appel de fond.
Oui, moi, ma conviction, c'est que. Et ça, je l'ai vu dans un pays, je l'ai vu en Inde, où les bailleurs réunis ne peuvent pas dépasser 10%.
10% du budget de l'État ne peuvent pas contribuer à hauteur de plus de 10%.
Je crois qu'il y a des exemples, des modèles comme ça qui sont
par peur de se faire dicter une politique de l'éducation. Jean-Marc Bernard, quand vous dites bon, il n'y a pas d'aide conditionnelle, par exemple, dans le cas d'États qui sont loin de dépenser, de consacrer 20% de leur budget de l'État à l'éducation, c'est-à-dire des États qui ne jouent pas le jeu, qui ne sont pas bons élèves. Qu'est-ce que vous dites déjà à ces États-là ?
Alors, dans ces cas-là, il y a deux éléments. Si vous n'êtes pas à 20%, qui est l'objectif général, vous devez démontrer que vous vous engagez sérieusement sur votre plan sectoriel, votre politique nationale. Donc cet engagement doit se traduire financièrement. Donc évidemment, s'il y a une contradiction entre une politique nationale et le financement qui doit soutenir cette politique nationale...
Il faut voir les dépenses qui augmentent, c'est ça, hein.
Absolument, qui augmentent pour financer la politique nationale. Sinon, comme vous l'avez bien dit, ce n'est pas le financement extérieur qui peut trouver les solutions ou combler les trous qui sont là.
Milliards de voisins. C'est sur RFI.
Vous écoutez 7 milliards de voisins, nous enregistrons cette émission à Dakar dans la foulée de la fin de la conférence de refinancement de l'éducation organisée par le Partenariat mondial pour l'éducation. Évidemment, les pays africains sont en première ligne. On a beaucoup parlé depuis vendredi dans notre émission précédente des difficultés démographiques pour absorber ce flux d'élèves continu aux portes de l'école primaire, mais aussi de l'engorgement dans le secondaire. On a peu parlé finalement, là je m'adresse à mes invités, on a peu parlé lors des discours officiels avec les chefs d'État, beaucoup de chefs d'État africains, une dizaine sont présents, les ministres de l'éducation. La question enseignante a été très peu présente dans les discours. Je suis assez étonnée. Jean-Martin Koulibaly, vous avez été jusqu'à il y a encore quelques jours ministre de l'éducation au Burkina Faso. Vous avez vécu une crise de près de 3 mois avec les enseignants qui réclament, pas seulement chez vous, mais massivement partout en Afrique, une revalorisation de leur statut, de leur salaire, de leurs conditions de travail. Ils se sentent notamment pénalisés par rapport aux magistrats, aux policiers, c'était le cas chez vous, hein, Jean-Martin Koulibaly, alors qu'ils représentent presque partout la majorité des salariés du service public, même s'ils ne sont plus fonctionnaires, puisque la plupart ne sont, en général maintenant, ne sont que des contractuels. Est-ce que les financements annoncés ce vendredi, l'engagement des États et de l'aide internationale vont permettre de sortir de cette spirale, de ce sentiment de désamour que ressentent les enseignants à l'heure actuelle dans leurs sociétés respectives, Jean-Martin Koulibaly ?
Non, la question enseignante, c'est la question de fond dans l'éducation, parce que l'enseignant, c'est le premier déterminant de la qualité de l'éducation. Seulement, comme je le dis parfois, dans nos pays, les besoins sont si cruciaux. Lorsque vous souhaitez avoir une éducation primaire universelle, ça veut dire que, pris sous l'angle du droit, vous ne pouvez pas dire à une famille qui amène son enfant, non, bon, on a l'effectif, vous revenez l'année prochaine ou dans 2 ans quand on aura l'espace. Donc, la responsabilité d'un État, c'est de veiller à ce que ce droit soit réel,
donc, même si les conditions ne sont pas... c'est l'enseignant sur son salaire.
Ne le voyons pas comme ça.
C'est ce qu'ils disent.
C'est vrai, dans une certaine mesure, mais c'est comme je le disais tantôt, dans cette situation, on ne va pas pouvoir dire on ne va pas accueillir l'enfant. Donc, on va accompagner l'enseignant où on va trouver d'autres mécanismes, par exemple au Burkina. Lorsque nous avons des classes de 110 élèves, 120 élèves, nous mettons 2 enseignants. Et c'est dans ces approches-là que parfois, en voulant bien faire, l'État parfois fait mal, parce que le délai pour former correctement un enseignant se trouve réduit, parce que la pression est là. Nous avons recruté, sur les 2 ans où j'étais ministre de l'Éducation, 22 000 enseignants. Donc, on voit tout de suite la problématique. Il y en a 75 000 pour le primaire, il y en a autour de 30 000 pour le post-primaire et le secondaire. Et si vous faites la moindre variation, même de 1 000 francs, 5 000 francs, vous vous retrouvez tout de suite avec une augmentation de 15-20 milliards. Ce n'est pas ça le fond du problème. C'est, comme on l'a dit, le président du FASO, quelle est la soutenabilité que vous avez de prendre des
mais
décisions.
Mais ça fait 20 ans important. Qu'on parle de soutenabilité aux enseignants. Est-ce que c'est un discours qu'ils peuvent encore entendre, ça, Jean-Marc Bernard? Quelle est la solution pour en finir avec ces crises scolaires à répétition sur le continent africain?
Ça, c'est une très bonne question. Si j'avais la réponse universelle, évidemment.
Mais avec 2,3 milliards de dollars de contributions de donateurs, est-ce qu'on peut espérer à un horizon de quelques années qu'il y ait moins de crises scolaires, de crispations du côté des enseignants?
La réponse, c'est non. Avec l'engagement de 110 milliards de dollars des pays, la réponse, c'est peut-être selon les contextes nationaux et comment cet argent sera utilisé au niveau local. Oui. Comme je suis un économiste, je vais vous rappeler que les enseignants, ils sont le premier facteur de qualité et c'est 70 à 90% du budget national de l'éducation, des dépenses courantes. Donc, ils sont évidemment au cœur de toutes ces discussions-là, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. La façon dont les pays vont approcher ces questions-là vont être différentes, doivent être différentes. Les contextes sont assez différents. Dans les 65 pays du partenariat, on a des contextes très différents. Il n'y a pas une solution qu'on va trouver à Paris, Washington, Londres ou Berlin pour ces questions-là. On doit passer par le dialogue local, on doit passer par les situations nationales, on doit avoir un partenariat au niveau local entre les acteurs, le gouvernement, pour trouver des solutions.
La question enseignante, pour nous, c'est une question essentielle en termes de motivation, parce que ça doit attirer les meilleurs d'entre nous, en termes de déficit qu'il faut combler, ça veut dire qu'il faut être plus ambitieux, en termes de qualification.
On a enregistré une émission là-dessus, sur ce sujet. En revanche, il y a un sujet qu'on n'a pas du tout abordé, qui concerne l'enseignement technique, puisqu'on le voit, il y a un engorgement maintenant dans le secondaire. Il y a une demande, en tout cas, de la part des jeunes, ils se rendent bien compte qu'ils se fracassent sur le mur du baccalauréat ou sur le mur du brevet. Quand est-ce qu'il va y avoir une politique réelle dans ces états-là d'enseignement technique? Jean-Martin Koulibaly, vous avez fait une partie de votre carrière comme enseignant technique. Vous me dites d'ailleurs, on ne trouve pas d'enseignants techniques bien formés pour être dans des lycées techniques, si, en admettant qu'on ait de l'argent pour monter des lycées techniques, parce que ces enseignants, par exemple, sont recrutés dans des entreprises.
Oui, on est dans une espèce de quadrature du cercle où... pour avoir mené des programmes importants de formation d'enseignants techniques, lorsqu'ils reviennent, parce qu'ils ont de la compétence, ils sont tout de suite absorbés par le secteur économique. Et c'est bien là qu'il faut que nous intensifions effectivement la formation de nos jeunes, parce que dans les parcours de nos systèmes éducatifs, tout est général. Vous finissez le primaire, vous allez en sixième, vous sortez avec un BEPC, et vous allez en seconde, vous sortez avec un bac. Mais sur tout ce parcours, vous n'avez rien appris à faire de vos 10 doigts en termes de métier que vous souhaitez.
Ça fait des années qu'on le dit. Qu'est-ce qui doit changer en priorité maintenant?
Ce qui doit changer, comme je disais tantôt, il faut d'abord que nous investissions encore une fois massivement dans l'enseignant technique pour que le vivier que nous allons créer, il y en ait pour le secteur économique, mais il y en a également pour le secteur de la formation.
Pourquoi ça ne se fait pas de manière massive, ça? Ça se fait, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de lycée technique en Afrique subsaharienne, mais
oui, y en a,
rien
sont,
par rapport aux besoins.
Très faibles, c'est très faible par rapport aux besoins qui est là.
Et pourquoi cela?
Mais parce que, en termes d'investissement, l'argent que vous pouvez mettre à créer un lycée technique, cet argent peut vous servir à créer peut-être 10 collèges d'enseignement général.
Ça revient trop cher.
Voilà, c'est ça la problématique.
On arrive au terme de cette émission. J'aimerais qu'on fasse un tour de table et que vous nous disiez, chacun d'entre vous, sur quoi va se porter votre vigilance et qu'est-ce que vous demandez finalement après toutes ces annonces et ces engagements financiers, aussi bien d'ailleurs du côté des donateurs que du côté de vos États qui eux-mêmes annoncent des engagements financiers d'ampleur budgétaire sur l'éducation. Sobel Ngom.
Je pense que c'est important aujourd'hui et plus que jamais qu'on ait le courage, je le redis, de faire des réformes qui sont fortes et qui sont difficiles. Il y a beaucoup de choses dans l'éducation nationale, en tout cas telle qu'elle est appliquée aujourd'hui, qu'il faut casser. Tout simplement. Est-ce que le bac aujourd'hui répond encore à notre environnement et à ce qu'on attend des jeunes? Je n'en suis pas sûr. Est-ce qu'il ne faudrait pas un autre type d'évaluateurs qui permettent aux jeunes de pouvoir quand même continuer à apprendre dans une autre forme. Étant donné qu'on réalistiquement, on n'a pas les moyens aujourd'hui de créer des lycées techniques pour tout le monde, il faut qu'on le planifie, comme il l'a dit, qu'on se dise dans 10 ans, 70% des jeunes en troisième doivent aller dans le technique et qu'on puisse le planifier dès maintenant sur les fonds qui sont déjà en mobilisation, etc. Et dernièrement, vu la situation actuelle, nos gouvernements de nos pays africains ne peuvent pas s'en sortir tout seuls. Les moyens sont énormes. La demande est énorme par rapport aux moyens que l'on a et qui sont mobilisés. Et donc, c'est important qu'on crée des process inclusifs de participation à l'éducation nationale.
Cher Mbo, de la société civile, la COSIDEP.
Moi, je serais vraiment content si, avec ces ressources, on réalisait le droit à l'éducation pour tous, véritablement. C'est ça, moi, mon rêve le plus fort. Je ne peux pas accepter qu'en 2018, qu'il y ait encore des millions d'enfants qui ne soient pas du tout, qui n'ont pas de perspective d'éducation. Cela n'est pas acceptable. Ça, pour moi, c'est un élément essentiel. Et je pense que les ressources doivent être orientées vers les familles les plus modestes, vers ceux qui en ont le plus besoin, de sorte qu'on puisse financer la revalorisation de l'offre publique d'éducation. Il y a des enfants dans nos pays, nous sommes au Sénégal, nous sommes en Afrique, qui même pour $1 ne seraient pas capables d'accéder à l'école et d'y rester. Donc il faudrait comprendre simplement que la gratuité de l'éducation doit être garantie pour les enfants qui sont dans la profondeur de nos pays
réel.
Et qui ne comptent que sur des États comme premier papa pour pouvoir changer de situation sociale.
Jean-Martin Koulibaly.
Dans un contexte de pauvreté de nos pays, et dans un contexte d'évolution démographique aussi forte, si la communauté internationale n'est pas plus généreuse envers nos pays, ça va être un match qui va être difficile à gagner. Et Les priorités doivent être, comme il l'a dit, l'accès à l'école. On ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, qu'il y ait encore des enfants qui n'accèdent pas à l'école. Mais également le maintien, parce que les taux de transition sont très faibles. Et au-delà de ça, maintenant, comme il le disait également, planifier la formation au métier de nos jeunes. Parce que ces jeunes-là, et instruits d'une certaine façon, mais n'ayant pas été formés au métier, sont également un certain risque pour nos pays s'ils ne peuvent pas se prendre en charge.
Jean-Marc Bernard, du Partenariat mondial pour l'éducation, est-ce qu'on va vers une campagne plus longue, à plus long terme, avec un prochain rendez-vous en 2020, avec des résultats semblables, ou au-delà d'ailleurs, financièrement ?
Absolument, 2,3 milliards de dollars, comme je le disais précédemment, c'est 70% d'augmentation par rapport à la période précédente. C'est une belle victoire, mais ce n'est pas suffisant. Donc ça ne s'arrête pas aujourd'hui. On a eu un magnifique événement, une grande réunion des chefs d'État, des ministres, une mobilisation, un momentum politique. On va continuer à mobiliser des fonds, à mobiliser nos partenaires pour lever des fonds pour le Partenariat mondial pour l'éducation et ses pays partenaires. Donc l'effort continue, la campagne ne s'arrête pas maintenant et on va vers 2020 pour une autre campagne. Ça, c'est la partie mobilisation des fonds. Pendant le même temps, on continue à travailler avec nos pays partenaires pour mettre en place ces politiques ambitieuses qui sont des politiques nationales. Donc c'est la raison d'être du partenariat, mobiliser des fonds pour supporter les partenaires au niveau local à mettre en place des politiques aussi ambitieuses que possible.
Bon, on se retrouve en 2020 pour faire le point, hein, avec les mêmes.
Volontiers.
Merci à vous tous. Merci aussi à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Bertrand Éclair, Nicolas Benita. Retour mardi dans le studio à Paris, on parlera des tendances de la mode avec les journalistes des magazines Brune et Gazelle. Un peu de légèreté, de frivolité, ça ne fera pas de mal aussi chez 7 milliards de voisins. À mardi les voisins, à demain.
7 milliards de voisins, c'est fini.